Booming News, le magazine de l'immobilier d'entreprise en coproduction avec le CIMI sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du CIMI News en partenariat avec le salon du CIMI. CIMI News saison 2, épisode 3, bienvenue, on reste ensemble pour à peu près un peu moins d'une heure d'échanges extrêmement intéressants, pertinents, avec une thématique sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui, une flexibilité des services dans les immeubles de bureaux. Voilà pour le pitch, pour le casting, une très belle équipe autour de la table. Aminata Si, directrice du CIMI, du City by CIMI, bonjour Aminata.
Bonjour Nicolas.
Vous allez bien, en pleine forme ?
En pleine forme.
Ça fait du bien de se retrouver finalement aussi ici en présentiel autour de la table.
Ça fait du bien et surtout en décembre.
Ça fera encore du bien,
voilà,
encore mieux.
On sera tous là.
8 au 10 décembre, c'est ça le salon du CIMI.
8, 9, 10 décembre, CIMI et City by CIMI au Palais des Congrès.
Eh bien parfait, le rendez-vous est pris, on le rappellera tout au long de l'émission,
exactement.
C'est important. Juste en face de vous, Céline Leonardi, directrice de la commercialisation chez Covivio. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas.
Vous allez bien ?
Très bien.
Pareil, en pleine forme, ça fait du bien de retrouver un peu tout le monde.
En pleine forme, content de se retrouver physiquement.
Ravi. Eh bien parfait. Et puis pour compléter ce casting, eh bien on écoutera dans cette émission Éric Piolle, le maire de Grenoble, hein, désormais candidat à l'élection présidentielle, à la primaire écologiste en tout cas. Et puis Ingrid Napi, professeure à l'ESSEC, titulaire de la chaire immobilier et développement durable. Merci donc à toutes et tous, hein, d'avoir accepté notre invitation. L'idée de cette série de podcasts, Aminata, on l'a dit lors de la première émission il y a quelques mois déjà, eh bien c'est de mieux comprendre les enjeux de demain et le rôle, hein, prépondérant des secteurs immobiliers, la fabrique de la ville, les nouveaux usages, les nouvelles façons de travailler aussi. Alors comment tout cela s'imbrique ? Y aura-t-il, hein, une métamorphose des quartiers de bureaux ou alors au contraire un statu quo ? Aminata, beaucoup de questions et pour l'instant c'est vrai difficile d'apporter une réponse précise à toutes ces questions.
Alors moi en tant qu'observatrice, hein, puisque CIMI, City by CIMI, je suis observatrice et je suis citoyenne et salariée. Comme tout le monde, j'ai le sentiment qu'on est encore dans une phase de transition, mais que les choses se sont accélérées, notamment sur le télétravail, les entreprises qui proposent aux salariés des jours de télétravail en moyenne une à deux journées, et qui se sont généralisées. Donc c'est se demander, ça va être quoi le bureau de demain, comment ? Mais tout ça nous touche tous, autant que nous sommes, et nous intéresse tous parce que ça touche à notre quotidien, à notre productivité, à notre bien-être, hein, puisque notre façon de travailler, notre productivité touche également notre vie personnelle.
C'est ça, c'est la complexité réside aussi sur le fait que d'un côté il y a le côté professionnel, il y a le côté personnel parce qu'on le vit en tant que salarié et en tant que professionnel de l'immobilier, Céline.
Oui, voilà. Alors ce qu'on peut nous constater côté Covivio en tant que propriétaire mais aussi Wellio puisqu'on a une marque de coworking qui existe depuis maintenant 4 ans, c'est regarder aussi les comportements de nos clients et des utilisateurs. Finalement, il y a pas mal de choses qui étaient déjà engagées avant le Covid. Ce que dit Aminata, c'est aussi une accélération. Une accélération beaucoup plus sur tout ce qui est digital, figital, etc. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une phase de retrait. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, tout le monde était un peu perdu et que là, de nouveau, on recommence à sortir, comme là, on finalement finit par se retrouver et que les entreprises réfléchissent à comment faire revenir leurs salariés au bureau et comment vivre cette période où je rejoins Aminata sur le fait que c'est vraiment une transition et on ne sait pas combien de temps elle va durer. On a encore quand même le masque, il y a encore pas mal de choses vers un nouveau monde qui sera, ça c'est une question, je pense que personne ne le sait aujourd'hui. On va devoir apprendre à travailler en hybride. On va devoir développer des nouveaux liens et des nouveaux formes d'engagement dans les entreprises. Donc là, petit à petit, ça se met en place. Retour au bureau, mise en place de certains modes de travail, donc télétravail et flex office. Et donc, il y a plein de choses à mettre en place pour accompagner les salariés, les entreprises vers ces nouveaux usages.
On va revenir un point par point au cours de cette émission sur tout ce qu'on vient d'évoquer là en quelques minutes, mais j'ai une question finalement assez basique sur ce sujet-là. Comment réussir à gérer d'un côté l'urgence, le phénomène passager, c'est-à-dire qu'il y a un accélérateur de tendance, il y a un tremplin dû à la pandémie mondiale, et en même temps gérer le long terme pour savoir si effectivement ça va s'ancrer dans des nouveaux usages, dans des habitudes de vie, dans des habitudes de travail. Comment réussir à gérer finalement ce paradoxe entre l'urgence et le long terme ?
Je pourrais citer de façon très concrète, on a un immeuble qui est à Saint-Ouen qui s'appelle Sopop. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va en faire là, puisqu'il est livré en début d'année prochaine. C'est un gros bébé, hein, il fait 25 000 mètres carrés. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a des parties prises sur le bureau de demain, ou est-ce que, qu'est-ce qu'on va en faire? Et on s'est dit, le bureau d'aujourd'hui, en tout cas, c'est un bureau évolutif. Donc on l'a conçu pour qu'il soit le plus évolutif possible, pour justement accompagner tout le monde vers ce nouveau. Donc c'est un bureau qui est construit comme un musée. Donc quand vous allez dans un musée, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur, l'exposition qui va faire la tendance. Donc on a une coque très stable. Et à l'intérieur, on va organiser le mobilier et les services pour être le plus évolutif possible en fonction de l'évolution des tendances et des usages. Et on a aussi mis en place des systèmes de capteurs pour que nos clients, qui justement se sentiraient un peu perdus sur l'utilisation réelle, puissent faire deux choses. Soit, en fait, se dire j'ai pris à bail 10 000 m², je me rends compte que j'en ai besoin de 8 000 après un retour d'expérience. On aura les datas pour les accompagner. Puis la deuxième façon d'utiliser les capteurs, c'est de dire vous avez mis beaucoup d'espace collaboratif, parce qu'au moment on se dit qu'il faut beaucoup d'espace collaboratif, puis peut-être que dans 2 ans, vous vous rendrez compte grâce aux data que c'est pas ces espaces-là qui sont les plus utilisés, mais qu'il faut de nouveau les repenser.
Voilà. Donc on est vraiment sur du cas par cas, sur de l'évolution en temps réel, quasiment grâce à la data, à l'innovation.
Se dire qu'on est dans une phase de transition et qu'il faut prévoir des outils de transition pour accompagner l'évolution.
C'est ça, on est dans une phase de transition et donc on doit assumer le fait qu'on est dans une phase de transition, Aminata.
Oui, je trouve que c'est aussi une solution de souplesse et qui rassure l'utilisateur, dans le sens où on n'a pas un engagement ferme tout de suite, mais que même ses usages ou même ses salariés, tout ça peut changer, peut s'accélérer, et qu'on a une solution à tous ces changements-là. Et je pense que ce contexte nous a permis de pouvoir être résilients, même si ce mot...
Il est un peu employé à tort et à travers, oui, c'est vrai.
Mais je pense que c'est le mot adéquat de se dire, très bien, on a vécu, on vit une pandémie... une pandémie internationale, on a eu des confinements, on a dû s'adapter pour travailler, beaucoup ne croyaient pas au télétravail et les choses ont évolué et aujourd'hui on se dit on retourne au bureau, parce qu'il faut retourner au bureau au-delà de l'employeur qui a besoin de voir ses salariés, mais parce que ses salariés aussi parfois en ont besoin et envie de retourner au bureau. Est-ce que de voir autre chose, de voir ses collègues, d'échanger avec d'autres gens? Parce que lors du télétravail, on s'est aperçu qu'on n'échangeait qu'avec les mêmes personnes, finalement.
Ouais, t'es dans un cercle fermé numérique, en plus.
Et je pense que c'est nécessaire pour c'est personnel, hein, c'est mon avis personnel.
Votre point de vue.
Je trouve que c'est nécessaire pour l'équilibre de pouvoir aussi échanger avec d'autres gens, de sortir de chez soi. Donc ce besoin-là s'est fait ressentir grâce à ce qu'on a vécu. Et maintenant, en fait, ce sont aussi les entreprises qui vont essayer de s'adapter sur ces nouveaux usages, ces nouveaux besoins, parce que, comme on l'a tous dit, on est en phase de transition. Il faut aussi qu'on essaye de comprendre ce qui nous arrive. Et on ne l'a pas encore compris, puisque ce n'est pas encore terminé.
C'est exactement ça. Mmh. Ouais.
C'est pas encore terminé.
Vous avez employé le mot besoin. Est-ce qu'on peut parler aussi de nécessité, finalement, de sociabilisation par le travail, Céline?
En fait, on parle souvent, en ce moment, on entend beaucoup parler certaines entreprises, je crois que c'est Access First qui a indiqué qu'ils ne retourneraient plus jamais au bureau et que le plus important a été d'avoir un temps de trajet assez court entre domicile et bureau, et puis qu'après, les salariés devaient trouver une autre forme d'engagement. Mais il y a quand même ce sujet de forme d'engagement. Si on ne se voit pas physiquement, comment on peut créer du lien entre nous? Parce qu'on le voit bien on a parlé des fameux team building dans le passé, parce que maintenant, on n'en fait plus beaucoup. Mais à quel point c'était important et à quel point ça soudait une équipe. Et si jamais vous ne voyez pas vos collègues, vous ne développez pas non plus des codes. On en parlait
juste avant l'émission.
Mais c'est que quand vous voyez vos collègues, sans vous en rendre compte, ça marche aussi avec vos amis. Hein, vous développez ce qu'on appelle des private jokes, des blagues, mais aussi beaucoup de mimétisme. Regardez chez vos amis combien de fois vous utilisez les mêmes mots, les mêmes tics verbaux, parce que vous faites partie de la même équipe. Et en fait, ça se retrouve dans l'entreprise. C'est pour ça aussi qu'après, il y a ce sentiment d'appartenance qui existe. On entend beaucoup parler de neurones miroirs, qu'on en parle souvent plus pour les bébés, que c'est comme ça qui grandissent, qu'ils apprennent à sourire, qu'en fait, un sourire, un bébé, il sourit aussi. Ça marche aussi à l'âge adulte. Et en fait, ces neurones miroirs, elles captent les comportements des autres individus, elles font que vous le répétez. Et ça fait partie de la communication non verbale, et c'est ce qui crée, en fait, sentiment d'appartenance. Et c'est comme ça que vous savez que vous appartenez à la même équipe, quoi.
Oui,
et ça, c'est important, et notamment en lien avec l'engagement.
Bien sûr. Et puis l'enjeu, il est aussi de savoir si ces codes, ces fameux codes, peuvent se transmettre de manière numérique. Est-ce qu'on peut avoir ces mêmes codes à la machine à café que derrière un visio sur Teams, sur Zoom, enfin peu importe. Mais est-ce que ces codes peuvent se transmettre ou pour l'instant, c'est compliqué de savoir. Évidemment, il y a cette phase de recul qu'il faut avoir et qu'on n'a pas forcément sur la situation. Mais votre avis sur la question.
Il y a le paléo-anthropologue Pascal Pic qui a écrit un livre qui s'appelle « Télétravail et les chimpanzés », donc qui explique... que comme les chimpanzés, on a besoin de s'épouiller, donc il y a vraiment un contact et aussi d'entraide entre les gens. Mais il parle aussi à un moment donné de ce... Il explique très bien le fait qu'il y a des nouveaux codes qui sont en train de se mettre en place, parce qu'on devient... on est en train d'évoluer nous-mêmes petit à petit. Et en fait, on met en place des nouveaux codes et des nouvelles formes de comportement et d'apprentissage par les visios. Donc certainement, dans les années à venir, on va développer des nouvelles façons de communiquer et de capter des signaux non-verbaux qu'on ne sait pas encore faire. Mais je veux dire, ça, c'est en train de se faire. Donc, il y a fort à parier qu'on va apprendre et faire de nouvelles choses. Mais comme tu disais, Aminata, tout à l'heure, personne ne l'a vécu, personne ne peut savoir comment ça va se passer.
C'est ce côté compliqué, c'est vrai, d'adaptation, finalement, d'évolution, soit des usages, soit de l'humain. Tout simplement, c'est remettre l'humain au cœur des préoccupations, Aminata.
Ça fait longtemps que l'industrie immobilière... essaie en tout cas de mettre l'humain au cœur des préoccupations, puisque c'est l'humain qui utilise le bâtiment. Là, on a aussi, en tout cas moi je pense, un sujet des jeunes talents qui vont entrer dans la vie active qui ont un besoin de liberté, qui est totalement différent de celui que nous on a connu, mais qui se pose pas la question de ils sont où les bureaux, ou plus c'est comment le télétravail chez vous, ils sont où vos bureaux flex ou autre forme d'espèce de coworking. Parce que moi dans le coworking, ce que je trouve aussi au-delà du lien d'appartenance qu'on peut avoir dans une société quand on travaille dans la même société. Dans les espaces de coworking, il y a aussi des partages qui peuvent se faire et qui peuvent mener à de la créativité. J'ai le sentiment aussi que ces jeunes talents ou ces jeunes salariés qui entrent dans le milieu du travail, enfin...
Qui arrivent sur la vie active, en tout
qui
cas.
Qui arrivent, en tout cas, dans la vie active.
Plein d'énergie, plein d'idées.
Ont envie aussi de partager... On est aussi dans une société de partage, beaucoup de choses se partagent. Et bien, partager des idées, partager un bureau, partager le même espace, d'autant plus qu'ils y sont dans des logements plus étroits. Et aujourd'hui, pour attirer ces talents-là, entre guillemets, je pense qu'il faut aussi pouvoir leur proposer d'autres solutions que celles qu'on pouvait proposer auparavant.
C'est-à-dire que, imaginons un jeune actif qui arrive sur le marché, il va choisir son entreprise, il va choisir aussi son lieu de travail. C'est tout aussi important, presque, ou pas jusque-là non plus.
Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Céline ? C'est toi la spéciale.
en tout cas, dans les systèmes de notation ce type Great Place to Work, qui permet de voir aussi la performance... De l'entreprise en termes de bien-être au travail, etc. Le critère environnement de travail, il compte beaucoup. Et c'est un point qui est vraiment regardé. Dans les dernières statistiques des questionnaires de mars qu'on avait fait, nous, côté Covivio, le bureau et l'environnement de travail étaient importants. Ça ne visait pas forcément la localisation. La localisation était agrégée à tout un tas de choses sur la qualité des services. Je pense que ces nouvelles générations, elles cherchent la liberté. Donc on parlait du télétravail tout à l'heure, on disait c'est pas tout télétravail ou c'est pas tout au bureau, c'est de pouvoir choisir, avoir cette sorte de liberté physique et intellectuelle. Je rejoins complètement Aminata sur cette quête de sens et d'engagement qui leur semble très importante, qui peut se matérialiser sous plusieurs formes, le côté partage et faire émerger des projets et avoir de l'autonomie pour le faire, mais aussi de l'engagement, enfin le côté sociétal et engagement sur tous les sujets de développement durable ou associatif, il devient de plus en plus important. Donc on voit, nous, dans nos bureaux à Marseille cet été, on a travaillé avec une association qui faisait du bénévolat pour former les futurs médecins. Donc c'est des médecins qui viennent donner du temps dans notre site de Wellio à des futurs étudiants qui ne peuvent pas se payer clairement une prépa. Et on voyait l'importance de ce sujet et pour nos collaborateurs Wellio, mais aussi pour les salariés, les clients du coworking. Ils trouvaient ça très important de pouvoir contribuer aussi à leur façon.
Je suis d'accord.
Donc, voilà. Donc ça, je vois que ces fameux talents, ils ont plein de demandes et plein d'envies. Mais voilà, liberté, sens, engagement, diversité. Et sur la localisation, oui, je pense qu'ils aiment quelque chose de... une certaine centralité, et il y a aussi peut-être un sentiment de fierté du lieu de travail qui devient une vitrine aussi, pouvoir dire dans mes bureaux il y a ça ou il y a ça, il y a un super rooftop ou il y a un super service qui permet aussi d'être fier.
Bien sûr.
C'est justement la prochaine question que j'allais poser à Aminata. Est-ce qu'il y a ce côté, je rentre chez moi, je suis fier, je dis je bosse ici parce qu'il y a ça, aujourd'hui, entre midi et deux, je peux faire ça, ça m'apporte ça. Est-ce qu'il y a cette vraie question aujourd'hui dans les mœurs et les usages?
Je vais rebondir sur ce que disait Céline par rapport aussi à cette nouvelle génération, sur les sociétés aussi qui peuvent choisir par rapport à leurs responsabilités sociétales. Et j'ai remarqué aussi que ça, c'était important et ça apportait de la fierté de voir les engagements de la société. D'ailleurs, je fais une aparté, cette année au CIMI, City by CIMI, on a un nouveau prix qui s'appelle Mécénat et solidarité dans la ville, pour prouver et montrer que l'industrie immobilière est active sur ces sujets-là. Exactement. Et donc, on est toujours fiers d'avoir des beaux locaux, d'avoir dans une entreprise ou dans le lieu où on travaille des services associés. On a parlé du jargon, du vocabulaire de l'hôtellerie dans les bureaux. Est-ce que ça permet aussi de faciliter la vie? Souvent, on va avoir des gens, moi, j'ai le pressing, j'ai pu faire ça dans mon heure de travail. C'est aussi faciliter la vie pour faire en sorte que ces personnes soient plus productives et concentrées sur ce qu'elles font, en se disant que, effectivement, l'entreprise pour laquelle je travaille, elle m'apporte aussi...
Elle me facilite. Voilà. Elle m'enlève une charge, en tout
exactement,
cas, personnelle.
Exactement, il y a du service. Et tout ça, on ne l'a pas chez soi. C'est aussi un élément motivant pour retourner au bureau. Donc, le lieu dans lequel on travaille, ce que ce lieu nous apporte, avec qui on a toutes ces interactions. En fait, tout ça... je pense, en tout cas pour l'instant, en tout cas dans cette phase de transition, mais ces sujets étaient déjà émergés depuis quelques années, mais comme on l'a dit, ça s'est accéléré. Mais ces sujets de service dans l'immeuble, dans le lieu de travail, dans le partage, ce vocabulaire d'hôtellerie, est devenu de plus en plus important.
Une vraie multiplicité des services.
Mais... voilà, il faut apporter des services. Et c'est assez curieux de se dire ça aujourd'hui, quand il y a quelques années, le bureau, c'était le bureau, en fait.
C'est juste... le bureau, un poste de travail.
Voilà, un poste de travail.
Une lampe, une plante à côté, mais pas plus, quoi.
Voilà, et les choses, elles évoluent. Mais cela dit, ça devient intéressant parce qu'on a des réflexions. Comme le disait Céline, on a des Pascal Pic qui apportent aussi leurs réflexions et qui permettent à l'industrie aussi de se nourrir et d'apporter aussi autre chose aux immeubles, d'apporter plus de services, de comprendre en fait. Et tout ça, il y a quelques années, c'était pas du tout, c'était pas dans le sujet.
Donc le bureau a de beaux jours devant lui encore.
Oui, clairement.
Je cite très bien Jérôme Galetti du cabinet Projectif parce qu'il a... c'est dans sa bouche, alors je vais pas lui voler ses mots, mais je trouve que c'est très juste. Il parle du bureau, il parle du connecteur. C'est ça, en fait, sa nouvelle vocation, en fait, c'est de connecter les gens. Après, on peut le décliner sous plein d'axes, connecter entre eux, connecter au travail, connecter à l'entreprise, mais c'est un lieu connecteur, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment ajusté.
Intéressant, intermédiaire qui permet de faire l'échange, le témoin, le relais, finalement, entre chaque personne, chaque individu.
Exactement, ouais.
Et cette nouvelle aussi notion de bureau étendu, parce que en fait, comme on dit, il y a le bureau, c'est le lieu de travail, la chaise,
poste.
Etc. Et maintenant, le bureau est tendu, puisque finalement, le bureau, c'est chez toi, le bureau, c'est dans un site de coworking, c'est au bureau QG. On a vraiment cette notion d'environnement de travail qui a pris beaucoup plus d'ampleur qu'avant. Et que le connecteur est une facette, mais il y en a beaucoup plus.
Exactement. Et là, le bureau, ça ne veut pas dire un immeuble de bureau, façon un peu raccourcie, la tour à la Défense. C'est plus ça, le bureau. Le bureau, ça peut être beaucoup, ça peut être partout. Ça peut être dans le hall d'une gare. Comme tu dis, le bureau élargi.
Bureau étendu.
Étendu. Ouais, c'est assez beau parce que ça peut.
Comprend plein d'éléments qui composent et le lieu, le connecteur, c'est une des parties. Puis après, comme tu dis, ça peut être dans ta voiture, dans tes.
Oui, c'est ça, on peut voir le territoire train. Finalement comme un bureau à ciel ouvert.
Exactement.
Comme un terrain de jeu, que ce soit dans les gares, que ce soit autour d'une piscine, que ce soit dans un bureau, dans un tiers-lieu, que ce soit chez soi, que ce soit.
Le bureau n'est pas mort, il est étendu.
il est différent, en tout cas. Mais la question, on l'a posée justement à Ingrid Napi, professeure à l'ESSEC, titulaire de la chaire immobilier et développement durable. Elle nous livre sa version des faits. Non, le bureau n'est pas mort, il évolue.
Non, le bureau ne va certainement pas disparaître, il va s'adapter à la situation. Alors en fait, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que. On a bien vu avec la situation du télétravail imposé lors de la période de confinement, c'est un télétravail subi. Donc après, courant du mois de mai-juin, on a fait des hypothèses que les salariés voulaient rester en télétravail chez eux au moins 2 à 3 jours par semaine. Notre enquête nous montrait déjà des nuances très sensibles. On voyait vraiment que pratiquement les 2/3 de l'échantillon, 63% des enquêtés, des sondés, disaient être impatients de retrouver son bureau initial. Donc ça, c'est un point important, le bureau avant la crise du Covid et les mêmes conditions de travail. Et d'ailleurs, cette volonté de retrouver le bureau initial était d'ailleurs d'autant plus importante parmi les salariés du quartier central des affaires de Paris et des grandes métropoles et des principaux pôles de bureaux classiques, par exemple la Plaine Saint-Denis, la Défense, etc. Donc là également, 2/3 des salariés et cette envie également davantage les cadres et les cadres dirigeants et les managers. L'objectif de notre étude, c'était de regarder si statistiquement il y avait des relations significatives entre les CSP. On va faire en gros les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les managers et les employés ou agents techniques ou agents de maîtrise. S'il y avait une différence significative également entre les générations, on va faire aussi à l'extrême les baby boomers, les plus de 50 ans, et puis la génération Z, voire même Y, qui commence maintenant à vieillir. Également, voir en fonction de la taille du ménage, en fonction du lieu géographique de l'habitation, etc. Et là, ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'il y a des différences très sensibles qu'on avait vraiment sous-estimées. Il n'y a pas vraiment d'effet générationnel sur le bureau, mais il y a en fait une volonté très forte de voir le bureau pour les employés et pour la CSP employés agents de maîtrise comme un cadre de concentration, ce qui n'est pas le cas pour les cadres qui le voient davantage comme un lieu d'échange, de rencontre et de convivialité. Donc, ça nous a bien sûr interrogés parce que, comme vous le savez actuellement, l'équation, comme je le mettais dernièrement dans un post, l'équation très compliquée à résoudre avec plusieurs inconnus, c'est comment va-t-on faire à la fois du télétravail en ayant un poste de travail attitré dans l'entreprise, puisque c'est bien ça que veulent les salariés et notamment c'est bien ça que veulent les usagers de bureau, employés de bureau qui passent 6 heures au bureau. Il ne s'agit pas du cadre dirigeant ou du manager ou du consultant qui va en entreprise. On parle du salarié, de l'employé de bureau qui a des tâches administratives à faire dans un bureau et qui a besoin d'un poste de travail titré, comme il le mentionne dans l'enquête. Donc voilà quelle va être la réflexion à mener, c'est comment concilier à la fois télétravail et poste de travail titré. Bien sûr, c'est très compliqué étant donné le coût de l'immobilier. Donc il y aura une réflexion à mener, à mon avis, de regarder quel type d'espace correspond le mieux à quel type de métier.
Réaction en plateau, Aminata, Céline.
Céline.
Voilà, il y a plein de choses dans ce qu'elle vient de dire. Kenapi. Déjà, c'est intéressant de voir effectivement croiser les différents profils et voir ce qui en ressort. Il avait effectivement vu que cette volonté d'avoir son propre bureau revenait sur le, et ça n'est jamais parti, et qu'il va falloir adresser ce point parce que nous, on l'entend, on est souvent questionnés par les entreprises qui cherchent des bureaux sur comment gérer ce sujet du flex office. On en parlait à Minata tout à l'heure, aussi pareil en préparation. Comment on arrive à se retrouver quand on n'a plus de bureaux attribués. Et alors, sur ce premier point-là, on peut citer OnePoint qui, quand ils ont déménagé leur immeuble à Boulogne il y a très longtemps et qui sont passés dans leur siège, leur président a dit, David Layani, aujourd'hui, avant vous avez un bureau chacun, aujourd'hui vous avez 3000 mètres carrés à vous. Et ils ont joué le jeu jusqu'au bout puisqu'en fait ils leur ont vraiment donné leur terrain de jeu, il est entier sur la totalité des bureaux, ils peuvent tout utiliser, peu d'expression près, ils peuvent tout utiliser, donc ils ont vraiment la possibilité d'être partout. Mais parfois, il y a quand même des personnes qui ne se sentent pas bien là-dedans. Et alors, pareil, c'est le principe de territorialité, le fameux point d'ancrage. On dit que tout être humain a besoin de se définir par une abscisse et une ordonnée. Sinon, vous n'avez pas l'impression d'exister. Et c'est pour ça que dans un bureau physique, si vous ne savez pas où votre point, vous vous sentez perdu. C'est pour ça que souvent, les gens mettent leurs photos ou leurs objets personnels pour se dire « je suis là, j'existe ». Et ça, quand on le supprime, ça, même quand on y pense là tout de suite, ça a un côté un peu déstabilisant. « Je suis où ?» Et ça, il faut réussir à créer avec les salariés le sentiment d'appartenance dans des locaux. Alors, comment on le fait à l'échelle d'un immeuble? En fait, c'est le voyage est plus important que la destination. Donc, c'est le processus avec des collaborateurs qui doivent être partie prenante pour les locaux. C'est choisir des éléments de mobilier, réfléchir aux usages, travailler sur les espaces. Ça, ceux-là, ils vont être flexibles, ceux-là, ils ne vont pas être flexibles. Des espaces de retrait, des espaces sociaux. À partir du moment où on se sent contributeur, on se sent mieux. Enfin, déjà, ça, c'est en tout cas ce sujet du bureau qui n'est plus le mien est un point adressé. Il y a des méthodes pour le faire. Et après, on se retrouve aussi sur comment résoudre ce puzzle de télétravail à la maison et de présentiel. Donc ça, c'est pareil. Il n'y a pas de recette miracle unique pour tout le monde. C'est les entreprises.
C'est du cas par cas, c'est par individu, c'est bien sûr. Il y a une question, je trouvais ça hyper intéressant, on revient, et extrêmement pertinent comme sujet. En fait, la co-construction collaborative, vraiment au sens propre du terme, quoi. On construit ensemble le lieu de travail, Aminata. C'est important, en fait, la question de choix, finalement. On assume, on maîtrise et on ne regrette pas.
Une histoire de dialogue, même entre ce que disait en début d'émission Céline avec l'utilisateur qui va pouvoir s'adapter grâce à la data. On est toujours dans le dialogue. On peut plus imposer, on peut plus rien imposer, donc ou difficilement, en tout cas. C'est de la co-construction, c'est du dialogue, c'est comme ce dialogue entre les élus et l'industrie immobilière, l'utilisateur et le monde de l'immobilier. Là, le salarié et l'entreprise. Je pense que de toute façon, on peut y arriver dans une société telle que la nôtre qu'avec du dialogue. Et puis aussi, c'est intergénérationnel parce que là, quand j'écoutais Ingrid Napi, on parlait de CSP, de manager. Est-ce que je me pose la question aussi, j'en reviens à cette nouvelle génération, est-ce qu'ils ont autant besoin de cette appartenance. Franchement, moi, je me pose la question. C'est une question totalement ouverte. Est-ce qu'on a une étude sur eux, leurs besoins, leurs envies? Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette envie de liberté. Est-ce que d'être volant sur un poste de travail, d'avoir tout dans son ordinateur et pas d'avoir des feuilles volantes posées
Sur le bureau attitré, mais posées en tout cas.
Mais de toute façon, en fait, il faut faire avec tout le monde, puisque dans une entreprise, on a aussi de l'intergénérationnel, les gens qui sont là depuis X années, qui ont leur habitude, leur pot de fleurs, leurs photos, et leur dire que finalement, ça, il va falloir l'enlever ou le mettre dans des casiers. Parce que dans certaines entreprises, ça existe déjà, ils ont déjà fait l'expérience. C'est de la co-construction, c'est du dialogue, c'est de l'écoute, c'est de la pédagogie. Les amener vraiment là où il faut les amener, c'est pas là où on souhaite, c'est que la société évolue dans ce sens-là. Il faut bien...
Il faut accompagner l'évolution de la société.
Exactement. Donc, c'est dialoguer, co-construire, partager, comprendre, écouter et aller à son rythme. Parfois, pour certains salariés, comme tu disais, c'est beaucoup plus difficile. Donc, peut-être qu'il y a des espaces qui leur sont beaucoup plus...
Oui, il y a les pas à pas finalement.
Voilà, et puis il y a aussi un accord à faire avec certains salariés en disant voilà, nos salariés plus âgés ou qui ont plus de mal, on va aussi les accompagner ensemble. Et c'est ce que tu disais, les faire collaborer dans le processus.
Et certainement qu'on peut aussi se dire que c'est pas tout d'un coup, faire des phases de test et leur montrer surtout les bénéfices, c'est je perds mon bureau attribué, mais qu'est-ce que j'ai en contrepartie ? Je parlais des 3000 m2, ça peut être moins ou plus, mais qu'est-ce que je vais trouver ? Ça rejoint le sujet des services, c'est que peut-être que je n'ai plus mon poste attribué, mais les autres mètres carrés sont utilisés pour des services que je n'avais pas chez moi, qui vont me servir pour d'autres choses. Donc c'est aussi beaucoup, enfin, ça revient à ce que tu dis Aminata, le dialogue, c'est beaucoup d'explications et de pédagogie sur les... C'est pas que ça, parce que le flex office, c'est pas « je n'ai plus de bureau », c'est bien plus large, et c'est un panel d'usages qu'il faut savoir utiliser. Il y a des générations qui sont plus... à l'aise avec ça que d'autres.
Plus facilement peut-être
pas,
que d'autres.
Parfois même pas que des questions de génération, mais juste de personnalité. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute et dans le dialogue.
Et comment vous le voyez-vous concrètement au quotidien chez Willio, ce côté intergénérationnel d'adaptation en fait au de vos usages, comment ça se passe?
Récemment, c'est notre dernier bébé Willio, c'est un site à Paris dans le quartier des Gobelins, et c'est 500 postes de travail. C'est une entreprise qui s'appelle Expertise France qui s'est installée là, et il y a eu vraiment un dialogue. C'était un souhait de l'entreprise de dialoguer avec leurs salariés, et on a travaillé avec un groupe d'ambassadeurs. Ils étaient 17, multimétiers, multigénération, tout. Et ils sont venus avec nous. Alors déjà, c'était de leur montrer autre chose. Parce que aussi, parfois, ils ont une vision qui est celle de leur bureau d'avant, en fait, de leur montrer ce qui existe. Donc on a montré, par exemple, les bureaux de OnePoint, mais pas que, pour leur montrer d'autres types d'environnements. Ça leur a ouvert un peu aussi des perspectives qu'ils n'avaient pas. Et après, on les a fait beaucoup travailler sur leur... qui ils étaient et leur culture d'entreprise. Donc on rejoint le début de la conversation sur le lien et l'ADN d'une entreprise, les fameux codes qu'on ne voit pas là. Et donc on a fait des ateliers et c'était amusant parce qu'au début, ils me disaient « Mais en fait, pourquoi vous me demandez qui on est et notre culture d'entreprise ? Vous n'avez qu'à prendre nos rapports annuels et puis vous les lisez. » Mais oui, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est de savoir finalement ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce qui vous rend fier d'être dans l'entreprise, quelles sont vos particularités. Donc ils reçoivent beaucoup de délégations étrangères, donc il y a tout un protocole à savoir, mais ils ont aussi une forte dimension de développement durable, on y revient, et c'est important pour eux que ça soit bien intégré dans le bâtiment sur plein de petits détails comme réduire les consommations et aussi un jardin potager sur le toit, et aussi le fait d'utiliser beaucoup les commerçants du quartier et pas de remettre trop de services à l'intérieur, mais d'être vraiment ouvert sur la ville. Et donc ça... En fait, les faire parler, les écouter là-dessus, ça leur a donné envie de développer plein de choses dans notre site Willio. Ils se sont vraiment appropriés. Ils ont finalement intégré et diffusé leur ADN au travers de l'aménagement et des services de cet immeuble-là. Voilà.
J'ai envie de rebondir sur un terme que vous avez employé dans votre intervention. Ouvert sur la ville, le bureau ouvert sur la ville. Aminata, c'est important, ce bureau inclusif dans une ville inclusive.
C'est
primordial.
Aujourd'hui, on ne peut plus proposer un bureau, un bâtiment, si on ne l'intègre pas dans son environnement. Donc aujourd'hui, c'est impensable. Contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a encore quelques années. Mais là, tous les territoires et les métropoles sont tellement différentes, avec un climat différent, un urbanisme différent, une histoire différente, que ouvert sur la ville, ouvert sur les usages de la ville, sur les citoyens, c'est primordial. Et aussi, c'est la compréhension, c'est ce que tu disais, Céline. Quand tu demandes aux salariés, ces ambassadeurs, d'abord, ils sont sur la défensive, mais c'est bon, prenez, vous avez de la lecture. Et finalement, on comprend que en dialoguant, ils se sentent vraiment intégrés dans la réflexion. Et la même chose, je pense, avec les élus, avec les villes et les métropoles, en les écoutant, en comprenant qui ils sont. Parce que finalement, c'est ce que vous avez fait chez Willio, c'est comprendre qui ils étaient pour pouvoir répondre à une demande ou une nécessité à ce moment-là. Et je pense que pour les villes, les territoires, c'est la même chose. Il y a d'abord un dialogue qui se fait entre territoire, industrie immobilière, promoteur ou autre, pour comprendre quel est ce territoire, quelle est cette métropole, comment intégrer un bâtiment de bureau ou autre, hein, parce que là on parle du bureau, mais un immeuble dans un territoire, il faut qu'il soit intégré entièrement dans la ville. Et aujourd'hui, c'est intégré entièrement, c'est développement durable. Ça, c'est indispensable, je dirais, puisque les consciences se sont accélérées également sur ce sujet. L'accessibilité de l'immeuble dans une ville, dans un territoire, on ne peut pas proposer un immeuble, un bâtiment sans penser à son accessibilité. C'est vraiment l'intégrer dans son environnement.
Alors, transition tout trouvé. Merci beaucoup, Aminata, pour cette transition. Vous avez parlé des élus. On va en interroger un, justement, un élu, Éric Piolle, le maire de Grenoble. Il a répondu aux questions d'Élodie Rabel, notre journaliste Radio Imo. Il a répondu aux questions notamment sur cette question des nouveaux usages du travail et de l'évolution des villes et métropoles, et notamment de la sienne, de la ville de Grenoble. Éric Piolle.
Alors, il faudra plusieurs choses. D'abord, il faudra des espaces de coworking parce que le télétravail fonctionne quand on a une qualité de logement avec de la place. Et donc, évidemment, ça va s'adresser à un petit nombre de personnes. Si vous travaillez vous travaillez dans votre salon, que quand les enfants rentrent, quand votre conjoint rentre, tout ça vous perturbe. Ça peut être très compliqué quand vous n'avez pas de place, quand l'isolation thermique de vos logements ne fonctionne pas. Donc, il faudra des espaces de coworking. Et là, les collectivités locales ont un rôle à jouer pour accompagner ce développement qui se fait aussi avec de l'activité privée. Et puis des déplacements doux, des modes de déplacement doux, et notamment la réhabilitation des trains du quotidien à l'échelle de bassin de vie, que dans les métropoles notamment, on retrouve des trains en mode RER, qu'on crée un peu des RER de bassin, et puis que dans le monde rural, on retrouve des solutions de rabattement pour arriver sur des points de transport en commun. Et donc là, il faudra développer des modes de taxi collectif ou de vélo électrique. On prévoit dans notre projet, par exemple, la création de 300 000 places de vélo dans les gares.
Il faut réfléchir de façon transversale, en définitive.
Totalement transversale. L'immobilier tertiaire va muter également, évidemment, parce que pour certaines entreprises, elles ont bien identifié qu'en fait, ils n'avaient pas forcément un besoin extrêmement fort de mètres carrés, que ça pouvait aussi, dans leur mutation, être une évolution. De même qu'on se rend compte là clairement que le nombre de places de parking dans les bureaux, associés aux bureaux, baisse drastiquement, ce qui permet d'avoir des plans de déplacement. Ça vient rentrer dans une logique globale de plans de déplacement d'entreprise.
Éric Piolle, micro d'Élodie Rabello, lors du MIPIM à Cannes. C'est intéressant ce qu'il dit, Éric Piolle, c'est que c'est ce côté 360, transversal des tiers-lieux, et puis une question centrale aussi de mobilité et d'accessibilité, comme vous l'avez dit, dans
Exactement.
La ville, Aminata.
Exactement, mais c'est ce que je disais, et c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on a, grâce au contexte sanitaire, on a pris conscience des éléments importants. Donc la mobilité douce, la mobilité partagée, tous ces sujets dont vient de parler Éric Piolle.
Dans la fabrique de la ville finalement, Céline, c'est important. Il parle des espaces de coworking et de la qualité aussi des logements, parce qu'on parle beaucoup de télétravail, mais si effectivement on vit dans 15 mètres carrés, qu'on n'a pas d'internet, qu'on est obligé de bosser sur soit la table du salon, s'il y a un salon, dans 15 mètres carrés, pas sûr. Mais en tout cas, il y a cette vraie qualité des logements et puis la qualité surtout des espaces de coworking et des espaces de travail qui peuvent amener cette envie et cet attrait aussi.
On revient sur le sujet du bureau satellite. Dans notre fameux bureau étendu, il y a ces relais qui permettent aux personnes qui ne peuvent pas travailler, comme le disait si bien à domicile, or qui ne peuvent pas pour des raisons... parfois, c'est juste parce qu'ils n'en ont pas envie. Mais donc, ça permet d'avoir des alternatives dans des lieux... Qui sont pensés pour déjà en connectivité et puis aussi en ergonomie. On a tous eu mal au dos, enfin pas tous, mais beaucoup ont eu mal au dos pendant le confinement. Donc c'est important aussi d'avoir une bonne ergonomie poste de travail.
Et une question aussi sur le maillage territorial. de ces espaces un peu satellites, parce qu'on voit finalement le bureau à ciel ouvert sur l'ensemble du territoire. On a parlé beaucoup pendant le confinement, alors à tort et à travers, hein, mais d'exode urbain, en tout cas, que les gens partaient un petit peu en périphérie des grandes villes, des grandes métropoles. Ça n'a pas lieu. Clairement, tout le monde ne va pas à la campagne non plus, parce qu'il y a des questions de mobilité, des questions de connectivité, des questions de services publics. Enfin, il y a tout un ensemble de questions autour de ça. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a cette envie, par exemple, de développer des espaces de coworking un peu en périphérie, en satellite des grandes villes, des grandes métropoles, proches des gares aussi, pourquoi pas ?
Alors, ce qu'on a vu, nous, alors côté offre Wellio, on a aujourd'hui 8 sites en Europe. Et on a donc des sites en région. Le premier qu'on a ouvert, en fait, était à Marseille. Donc... On était ses précurseurs sur les implantations régionales. Donc à Marseille, à Bordeaux, et là on vient d'ouvrir à Lyon. Pendant le confinement, c'était les sites qui étaient le plus demandés, en fait, c'était ceux en région. Et là, maintenant qu'on est dans une phase plutôt de reprise, on a vu nos concurrents s'implanter davantage en région, alors qu'avant c'était quand même focus Paris. On a vu qu'il se développait davantage. Et deux, on a vu beaucoup de demandes et notamment d'appels d'offres de grands groupes qui veulent compléter leur bureau, toujours leur bureau étendu, donc leur QG par un maillage et donc qui demandent à avoir une vision 360 de toutes les implantations possibles pour les proposer en relais à leurs salariés.
Et du coup, et maintenant, pour rester dans cette thématique des mois, des semaines à venir, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, un espace de coworking ? Je ne sais pas, au lieu de faire une visio, ben on va louer une salle de réunion pour juste se rassembler tous ensemble le temps de la réunion. Et puis après, chacun revient soit sur son lieu de travail, soit chez soi. Mais est-ce qu'il y a cette possibilité là aussi ?
Alors, dans nos espaces Wellio, on a cette activité-là de réunion. Et c'est vrai que là, pour le mois de septembre, on a fait x2 sur ce segment-là par rapport à 2019. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie appétence pour du collaboratif, ce qui peut être un signal faible de dire le bureau de demain, elle a vraiment cet usage de connecter. Mmh. Et on nous demande ces salles aussi bien en physique pour se retrouver et faire de l'interaction, mais beaucoup en digital. Merci. Nous, on a dans tous nos sites, on a aménagé des espaces qui sont conçus pour, parce qu'il ne s'agit pas de se dire j'ai juste mon ordi et j'ai
la connexion.
Voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a le micro qui résonne, ça ne marche pas, etc. Et puis chacun est devant son écran finalement. Donc c'est vraiment des espaces conçus pour, avec des caméras qui tournent et des écrans bien placés, une ergonomie à avoir. Mais on voit une forte appétence pour la partie meeting sous des formes diverses et variées.
Aminata, c'est intéressant ce que vient de dire Céline.
Oui, totalement. Je me disais, par rapport à 2019, x2, de toute façon, on peut comparer qu'à 2019, mais toi, tu voyais plus en présentiel ou vraiment ce côté digital ?
En ce moment ?
Ouais. Ouais,
c'est beaucoup de physique quand même. Ouais. La majorité, mais ils nous demandent quand même de pouvoir faire, si nécessaire, une connexion à d'autres qui ne seraient pas présents.
De toute façon, maintenant, on ne peut plus faire autrement. Exactement. C'est l'hybridation partout et permettre aussi d'avoir des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et c'est là où c'est intéressant, finalement. C'est que, le télétravail ou le travail individuel derrière son poste, ça nous a isolés. Cela dit, dans cette configuration-là où on est dans un espèce de coworking, ça peut nous permettre d'avoir des intervenants de réunion qui sont ailleurs et qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, ou on n'y aurait pas pensé. Ça s'est tellement généralisé que ça a ouvert des possibilités, même si la première pensée, quand on y réfléchissait, c'était « ça isole ». Mais aujourd'hui, on va le voir, en tout cas pour l'instant c'est ce que je pense, différemment, parce que ça va nous ouvrir des possibilités et on va réfléchir à comment l'utiliser de façon beaucoup plus constructive et pouvoir nous permettre d'apporter autre chose et d'élargir.
Et ça rejoint aussi quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est quand on parlait du télétravail, tu disais on parlait toujours avec les mêmes personnes. Il y a une perte de tout ce qui est informel, de la fameuse discussion de la machine à café, qui paraissait anodine à l'époque, mais après on a compris toute l'importance de cette discussion transverse et la quantité d'informations qu'on avait. Et donc aussi de regrouper les salariés dans des moments forts, parce que là je parlais de meetings sous toutes les formes, mais ça peut être aussi, il y a aussi des demandes de cocktails, de petits séminaires, etc., pour eux partager et faire des ponts entre des personnes qui continuent à télétravailler, quoi. Mais sur des moments aussi informels.
Exactement. C'est intéressant, tu vois, ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent en parler parce que ça nous touche tous individuellement. Ça nous intéresse tous dans le sens où aujourd'hui, on réfléchit chacun à comment j'aimerais travailler, où j'aimerais travailler. Et donc, on est encore dans le sujet et c'est sociétal. En tout cas, nous on le traite de façon nationale au CIMI parce que c'est un salon qui est sur le marché franco-français. Et puis, on a une vraie identité française sur nos usages. Et ce que je trouve intéressant par rapport à d'autres pays comme les États-Unis qui ont d'autres usages et d'autres besoins. Et on est encore dans ce sujet qui intéresse une grande partie de la population.
Parce qu'elle concerne tout le monde, exactement, ce sujet-là. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été nos deux invités sur ce plateau du nouvel épisode du CIMI News. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler au salon du CIMI du 8 au 10 décembre, 8, 9, 10 décembre, au Palais des Congrès à Paris et du City by CIMI, évidemment, en concomitance du salon du CIMI. Merci beaucoup, Amine Attassi, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Céline Leonardi, d'avoir été avec nous sur le plateau. Vous pouvez évidemment retrouver ce podcast en ligne sur le site radioimmo.fr, sur tous les agrégateurs de podcasts. Vous pouvez évidemment vous rendre tout de suite sur le site du salon du CIMI. Et puis évidemment, vous pouvez vous rendre sur du City by CIMI aussi. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur les affiches autour de nous, sur le site Covivio, Willio. Vous pouvez y aller coworking, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve très vite, évidemment, pour un nouveau numéro du CIMI News. À très vite.
Retrouvez CIMI News, le magazine de l'immobilier d'entreprise, en podcast sur Radio Immo et le site du CIMI et sur toutes les plateformes de podcast habituelles.